Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 15 octobre 1997 à Saint-Jeudard.
Je n'ai pas bien compris les deux façons d'être serviteur et pourquoi la philosophie ne se rend pas esclave de la théologie. Pourriez-vous y revenir? La dignité de l'esprit. De la sagesse que Dieu crée l'homme et l'esprit pour lui-même. Alors pour lui-même, ça peut être pour Dieu, mais c'est en même temps pour l'esprit. Parce que le petit cochon n'a pas d'âme spirituelle. Les philosophes disent qu'il y a une âme végétative. Et si Dieu la sagesse de Dieu a voulu des petits cochons pour le repos des démons. Je présume, n'est-ce pas, si on est attentif à l'écriture, on voit que c'est cela. Il y a un appétit particulier où les démons d'aller se reposer dans les petits cochons. C'est curieux. Ça fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'Israël n'aime pas la viande des porcs et que c'était défendu. Tandis que l'âme spirituelle, Dieu l'a créée pour elle-même. Donc, par la grâce, Dieu va respecter cette autonomie de l'intelligence et de l'amour spirituel. Dieu ne va pas réduire l'intelligence à l'esclavage. Ce serait tyrannique. Dieu n'a pas inventé les sectes, ni les gourous. Les instruments de Dieu, et plus ils sont instruments de Dieu, plus ils sont libres. L'instrument de Dieu par excellence, c'est le Christ dans sa nature humaine. Et c'est toujours là où il faut revenir, de comprendre l'union qui existe entre le Verbe de Dieu et la nature humaine du Christ, sa volonté, sa liberté. Le Christ était-il libre? Quand il choisit, est-ce qu'il choisit librement? Ou est-ce qu'il choisit comme un esclave? C'est toute la question. Hein. Mais c'est pour ça que cette question est très importante, parce qu'elle est radicale au rapport avec Dieu. Non. Et si saint Thomas maintient qu'il y a une sagesse philosophique, c'est pour nous montrer que la grâce respecte cette sagesse philosophique. Et ça, c'est très beau. Et c'est très grand. Vous voyez, c'est ce que Descartes n'a pas compris. Quand il revendique la liberté de l'intelligence, la certitude, il n'a pas compris que la grâce fait de l'homme, du chrétien, un homme plus libre que s'il n'était pas chrétien. Si Dieu nous donne la vocation monastique, la vocation religieuse, il nous donne une liberté plus grande que ceux qui vivent dans le monde. religieuse ne vous rend pas esclave. Mais de nous, des hommes libres, plus libres que si on restait dans le monde. Et c'est ça qu'il faut arriver à saisir. Être l'ami du Christ, être serviteur bien-aimé comme ami, c'est avoir une liberté plus grande que si on était simplement des hommes religieux. Mais cela exige aussi une plus grande docilité intérieure dans l'amour. Le meilleur des serviteurs, c'est l'ami. Parce qu'on peut tout demander à son ami. On lui communique nos secrets. Et donc on peut tout lui demander. Tandis qu'on ne peut pas demander tout à un serviteur à gage. Il y a une alliance de justice qu'il faut respecter. Et c'est un peu le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Si on regarde attentivement, dans l'Ancien Testament, c'est le point de vue de la justice qui domine. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'amour. C'est saint Augustin qui dit ça. Et en gros, c'est juste. Alors, comprenez bien qu'est-ce que j'essayais de voir. C'est les relations de la sagesse et de la foi. L'intelligence n'est parfaitement elle-même que dans la sagesse, où elle atteint sa fin, où la sagesse, comme saint Thomas l'a défini, habitus contemplatius. La sagesse est un habitus contemplatif. C'est très très beau comme définition, hein. La sagesse nous permet de vivre de ce qui finalise notre intelligence. Qu'est-ce qui finalise notre vie intellectuelle? C'est la contemplation. La sagesse nous permet de vivre de la contemplation avec joie, au-delà du labeur et du travail. Il faut beaucoup de labeur et beaucoup de travail pour acquérir l'habitus contemplativus, pour acquérir la sagesse philosophique. C'est le fruit d'un très grand labeur, du plus grand labeur qui soit. Si on était conscient de ce que c'est, non. Et c'est ce qui donne à l'intelligence humaine sa plus grande autonomie, source de la plus grande liberté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la foi peut demander à la sagesse acquise philosophique d'être au service de la parole de Dieu. Puisque la foi se nourrit de la parole de Dieu. Ce n'est pas directement sur la foi, puisque la foi est un don de Dieu. Non, la foi a une qualité que l'intelligence, que l'habitus acquis de sagesse philosophique n'a pas. La foi a une qualité divine, elle transcende la philosophie, mais la foi se sert de la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Et Dieu a voulu nous communiquer son mystère en se servant de la parole humaine, du langage humain. Dieu n'a pas inventé une nouvelle langue. Saint-Esprit m'avait demandé conseil, je lui aurais dit d'inventer une nouvelle langue. On aurait été à l'abri, vous comprenez bien, on aurait eu une forteresse divine. Recevoir le baptême, c'était en même temps de recevoir le don d'une nouvelle langue. Que les savants, que les philosophes n'auraient pas compris et n'auraient pas pu comprendre. Et l'humilité, si j'ose dire l'humilité, la pauvreté, si j'ose dire la pauvreté de Dieu, c'est de nous parler en nous servant de notre langue. Et le mystère de la Pentecôte, c'est ça. Et le fait de passer du latin aux langues vulgaires, c'est dans cette lumière-là, nous revivons le mystère de la Pentecôte au niveau liturgique. On se sert de la langue vulgaire. Et je comprends très bien ceux qui veulent garder le latin. Ils veulent garder la forteresse. Ils jettent de la poix sur ceux qui veulent venir. Tandis que l'Esprit Saint dit non, ouvrez toutes les portes. Ayez la langue vulgaire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et ça marque quelque chose dans la vie de l'Église. Il y a un tournant dans la vie de l'Église. C'est le mystère de la Pentecôte qui s'empare de la liturgie. Or, vous savez bien, les deux œuvres de l'Église, c'est la théologie et la liturgie. C'est les deux grandes coopérations avec l'Esprit Saint. C'est la théologie et la liturgie. Bon, la théologie, c'est fait en latin. Jusqu'à ces dernières années. Elle ne se fait plus en latin. Elle se fait en langue vulgaire. Et la liturgie a suivi. Pensez ça par les sommets, dans la conduite de Dieu. Et si on avait présenté ça dans une perspective théologique, je crois qu'il y aurait eu moins d'opposition. On aurait compris que c'était l'Esprit Saint lui-même qui ouvrait les portes, entrait. Vous savez, les noces, c'est parabole des noces. Tous les invités qui ne sont pas là, la fureur et la colère du maître de maison, allez ramasser tous ceux qui sont. On va parler la langue vulgaire. Tandis qu'avant, il fallait la redingote. Avant, il fallait la langue des sages. Et on ouvre les portes et rechercher n'importe qui. C'était ça exactement. La liturgie en langue vulgaire, qui a toujours existé chez les orthodoxes, a toujours existé dans l'Église. Mais là, c'est pour tous. Et si on venait au latin, parce qu'au début, on avait toutes les semaines une messe en latin. Et alors le noviciat avait beaucoup de peine à suivre. Et les novices ont demandé non, si on pouvait avoir la messe toute la semaine en langue vulgaire. Alors on a demandé à Rome, et Rome a dit oui, vous pouvez le faire. Parce qu'au début, on demandait de garder le latin. Dans un souterrain, une petite place. Alors ce qu'on réclame encore, c'est que chaque prêtre sache dire la messe en latin. Je ne sais pas si c'est très bien observé. Mais il faut, et nous maintenons ça, nous essayons de le maintenir. Chaque prêtre doit pouvoir dire la messe en latin, pour que partout le prêtre un missel en latin. Surtout, vous allez au Japon, il n'y a que des messes en japonais. Alors tandis que vous pouvez dire la messe en latin. Qui reste? Alors la messe en latin avant était pour les chevaliers, maintenant c'est pour les pauvres. Qui ne savent pas toutes les langues. Et on a toujours le droit de demander de dire la messe en latin, partout. C'est l'unité de l'Église, par la langue. C'est un signe d'unité. Mais c'est très vrai qu'il y a là un phénomène très extraordinaire qui fait que l'Église ne vit plus en forteresse. Elle retrouve l'attente dans le désert. Au Moyen-Âge, quand un couvent nouveau se fondait, le pays dans lequel on allait construisait un couvent en pierre. Et c'était quelque chose de beau. Aujourd'hui, non. Débrouillez-vous. Alors on prend les vieux presbytères qui sont des temps. Les tentes de Kedar qui sont des tentes noires, pas très joyeuses. Alors on est dans un presbytère. Alors ça peut scandaliser, je comprends. C'est que l'Église est pauvre, mendiante. On me disait, la première fois que j'étais à Athènes, que la fortune de l'Église orthodoxe était plus grande que celle de l'État grec. Mais plus maintenant, je suis sûr. Nulle part, l'Église est plus puissante que l'État. Même l'Église de Chicago. Parce que je crois que c'est l'église la plus riche, celle qui était à Chicago. C'est juste pour ça qu'elle est aussi très moderne. Enfin, quand on cherchait pour fonder Chicago, ben c'était bien. Alors, j'ai demandé une audience au cardinal. Le cardinal a dit qu'il ne pouvait pas et qu'il nous enverrait son vicaire général. Et c'était une religieuse comme vicaire général. On lui a demandé combien de religieux elle avait sous sa dépendance. Elle nous a dit 2000. Elle nous a dit textuellement, très bien, on ouvre les portes à tout le monde, vous pouvez venir. Mais on n'a pas besoin de vous. C'est merveilleux, ça. Alors, le lendemain, vous voyez un petit évêque. Le jour même, vous voyez un petit évêque, tout humble, merveilleux. Oh, venez, je n'ai pas de religieux chez moi. Venez, venez. C'était le père Dominique qui était avec moi. On s'est regardé. Dit comme c'est évangélique, ça. C'est extraordinaire. Mais bon, il faut essayer de comprendre la conduite de l'Église sous ce point de vue-là et les rapports de l'intelligence et de la foi. Lorsqu'il s'agit de la théologie, il faut les comprendre dans la lumière d'une théologie de l'économie divine. Et je crois que c'est Thomas d'Aquin qui l'a dit de la manière la plus forte et la plus explicite et la plus nette. Alors c'est intéressant de voir comment la sagesse philosophique ne perd rien de sa dignité de sagesse en étant au service de la foi, c'est-à-dire au service de la vérité divine révélée. Si elle ne perd rien de son autorité tout en étant servante, elle est servante avec des gants blancs. Elle est servante avec sa dignité de sagesse. C'est merveilleux, ça. Descartes veut libérer l'intelligence de ce service. On aurait dû dire à Descartes, mais l'intelligence humaine a gardé toute sa sagesse. Si vous n'avez pas compris, il ne faut pas la libérer. Être serviteur d'une lumière plus grande que celle qu'on peut acquérir par nous-mêmes ne nous diminue pas, au contraire, nous exalte, nous donne une dignité nouvelle, nous donne une noblesse nouvelle. L'intelligence qui sert la foi, qui sert l'écriture dans la théologie, n'est en rien diminuée, mais elle est appauvrie pour entrer dans un service qui l'ennoblit, qui lui donne une nouvelle dignité, une nouvelle grandeur. Donc il ne s'agit pas de libérer l'intelligence, il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence au service de la foi, c'est-à-dire au service de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, on grandit. Parce que Dieu est magnanime. Parce que la foi et la grâce respectent l'intelligence dans sa noblesse de sagesse. C'est pour ça que c'est si important, les trois sagesses de Thomas d'Aquin. La petite Marthe me disait, quand j'ai exposé une fois les trois sagesses de Thomas d'Aquin, elle me l'a demandé. Elle m'a dit, oh, c'est merveilleux, ça met tout en ordre. Et ça, c'était la petite paysanne, fille de Dieu, comme Jeanne d'Arc, qui comprenait combien c'était grand. Être serviteur de Dieu, il n'y a rien de plus noble. Et ça garde la source de notre noblesse, qui est la sagesse philosophique. Parce qu'elle maintient en nous cette autonomie dans la recherche de la vérité. Oui, alors, il faut comprendre ce service, qui est le service d'un ami. Un ami, quand il est serviteur de son ami, augmente son amitié et ne supprime pas son amitié. Et donc son amitié grandit, sa liberté d'ami grandit, puisque le propre de l'amitié, c'est de garder sa liberté pour son ami. Un ami ne rendra jamais son ami esclave. Ce serait supprimer son amitié. Alors, il y a ce service éminent. C'est le plus grand des services. C'est là où il faut comprendre le service dans ce qu'il a de plus éminent. C'est tout autre chose que l'esclavage. L'esclave n'a plus de dignité humaine parce qu'il est incapable de se gouverner lui-même. C'est le seul esclavage qu'Aristote reconnaît. Vous êtes en face de quelqu'un qui est incapable par lui-même d'atteindre la sagesse. Des quantités d'hommes d'aujourd'hui. Alors, Aristote dit, pour ces hommes qui sont incapables par eux-mêmes d'atteindre la sagesse, être l'esclave de ceux qui sont des sages, c'est acquérir une dignité plus grande parce qu'ils participent à la sagesse du maître. C'est très beau, ça. Mais c'est compréhensible que par la finalité. Atteindre la finalité de mon intelligence en étant au service d'un maître, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est pas grandir, puisque par là, j'atteins ma finalité intérieure. Mais l'esclave de celui qui pourrait par lui-même atteindre sa finalité, alors à ce moment-là, l'esclavage est honteux. Ce sont les sectes. Et on retrouve l'esclavage dans les sectes. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir proclamer aujourd'hui. Pour montrer toute la différence qui existe entre la vie religieuse et les sectes. Donc vous voyez, les deux services. Le service de l'esclave.
Et qui vient là pour permettre à notre intelligence
devoir cheminer d'une manière droite, sans se laisser prendre par la séduction des images, des symboles, de tout ce qui flatte, de tout ce qui brille. Quand l'intelligence de sagesse perd sa dignité pour devenir une logique, donc un art, l'art de la vie de notre intelligence. Un art, l'art des arts, c'est saint Thomas qui appelle la logique l'art des arts. La seule chose que l'intelligence humaine est capable de créer, c'est l'être de raison. L'être raison premier, c'est la relation de raison que nous découvrons dans l'universel. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? Saint Thomas définit l'universel. Cette relation de raison qui unit l'un au multiple, ad, in, ex. C'est curieux, ces trois petites. L'universel, c'est ce qui provient du multiple. C'est ce qui est ordonné au multiple. C'est ce qui est multiple. Alors, prenez comme exemple, parce qu'il faut avoir un exemple, comme support. Prenez tout simplement animal. C'est le meilleur universel. Parce que vous le portez en vous. Animal. C'est vous qui avez bien vu. Vous n'avez jamais vu l'animal. Vous avez vu un lion. Vous avez vu un chien, vous avez vu un tigre. À partir de tout cela, l'intelligence a extrait l'universel animal, qui est le genre animal. L'animal provient du multiple. Ex, il provient du multiple. Animal est ordonné au multiple. L'homme est un animal. Je suis en compagnie du lion. C'est vrai. Animal, c'est un genre. Et l'homme. Je me souviens de quelqu'un qui faisait une enquête. Il est venu me demander, avec une indiscrétion de ceux qui font ces enquêtes, quel est l'animal que vous aimez le mieux ? Je lui ai dit, moi. Il m'a regardé. Mais c'est sérieux. Mais je comprends que c'est sérieux.
L'homme est un animal.
Et il demeure, parce il est en moi, cet animal. Et il vit mieux que n'importe quel autre, donc il est plus aimable. L'homme est le roi des animaux, vous le dites. Donc, et l'homme, c'est le qui? Mais c'est vous. Vous êtes le roi des animaux. Donc, vous reconnaissez sa dignité en vous. Vous reconnaissez la dignité de l'animal en vous. C'est vrai. Et c'est Dieu qui a fait ça. C'est extraordinaire. Il a fait l'union de l'animal et de la raison. Ça. Depuis que Dieu l'a fait, l'homme le nie. Hein. Parce qu'il n'aime pas beaucoup d'être raisonnable. Il aime mieux d'être animal. Une culture qui est en train de disparaître. Qu'est-ce qui reste de cette culture? L'animal. Alors qu'Aristote avait défini l'homme en disant ce qui est proprement humain, c'est ce qui n'est pas dans l'animal. C'est très juste. Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas proprement humain. Ça, c'est très fort. Voyez alors cette chose terrible que l'être de raison c'est l'amitié par excellence. Entre amis, s'il n'y a plus qu'un dialogue logique, l'amitié meurt très vite. Tout ce que je te dis, c'est universel. Voilà l'amitié. C'est extraordinaire. C'est pour tout le monde. Oui. Alors c'est ce qu'on disait pendant le concile. L'œcuménisme n'est parfaitement réalisé qu'à la cafétéria, quand on va prendre le café. Parce que tout le monde prend le café. L'orthodoxe, le catholique, le protestant prennent le café. L'unité dans le café. Oui. Et ça, c'est la logique. À la place de regarder la relation personnelle, dans la très sainte Trinité, il n'y a que des relations personnelles. Je vous salue, Marie.